Je vous invite à ouvrir la parole de notre Seigneur dans le livre de Luc, au chapitre 7, du verset 31 à 35. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemble-t-il? Il ressemble aux enfants assis sur la place publique et qui se parlent les uns aux autres, disant: nous, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites: c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants.
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce merveilleux programme que les enfants nous présentent ce matin. Merci à vous, merci aux responsables qui les ont fait répéter. Merci à Dina qui, ce matin, se transforme en chef d'orchestre. Je voudrais simplement maintenant vous apporter un petit message de la part du Seigneur. Et bien entendu, il est lié aux enfants et il est lié à la parole que nous venons de lire. Le groupe de ceux qui suivaient Jésus grandissait de jour en jour. Rapidement, il commençait à se diversifier et des gens de la pègre même venaient s'y ajouter. Attirés par le magnétisme spirituel du maître, des mendiants, des bandits, des prostituées et autres marginaux de la société changeaient spectaculairement de cap et s'intégraient avec enthousiasme à son merveilleux projet de Jésus, de son époque. Devant ce changement, les prêtres, les scribes, les pharisiens, c'est-à-dire les couches les plus religieuses de la société, opposaient encore une plus grande réticence et résistance. Le jeune maître les déconcertait parce qu'il avait l'ingéniosité d'aspirer à la vérité, l'innocence de prêcher la vertu et l'impertinence de plaider pour la justice. Le Nazaréen déplorait par-dessus tout chez ses religieux le manque d'engagement et de cohérence. À qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui, dit-il? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place du village. Les uns crient aux autres: pour vous, nous avons joué un air de flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant de funérailles, mais vous n'avez pas pleuré. En effet, Jean-Baptiste est venu. Il ne mange pas, il ne boit pas, et les gens disent: il est fou. Le Fils de l'homme est venu. Lui, il mange, il boit. Et les gens disent: regardez, cet homme pense seulement à manger et à boire. Il est l'ami des employés des impôts, des pécheurs. Mais quand on voit ce que fait la sagesse de Dieu, on reconnaît qu'elle agit bien. C'est ce texte que nous venons de lire, Luc 7, 31-35. Le maître était enchanté par les enfants. Souvent, il s'arrêtait pour les observer en train de jouer dans la rue. Son attention était attirée spécialement par leur imitation des adultes. Et oui, tandis qu'ils jouaient aux soldats, à différents métiers, au roi, à la princesse, au papa, à la maman, il aimait les voir jouer et encore plus jouer avec eux. Je parle de Jésus. La scène évoquée dans sa parabole suggère la tombée de la nuit d'un jour de canicule. Un groupe d'enfants, fatigués, se sont assis ou allongés sur les escaliers de la place, profitant de la fraîcheur de la pierre. Un autre groupe voudrait encore jouer. On joue au mariage ? Et sans tarder, ils se mettent à faire une ronde en imitant les flûtes du cortège nuptial. Mais pendant ce temps, les autres doivent danser au son de la musique, comme le suggère ce jeu. Mais les enfants de l'autre groupe n'ont aucune envie de danser. Bien, si vous ne voulez pas jouer au mariage, jouons à l'enterrement. Les gamins décidés à jouer entonnent une mélopée funèbre, espérant que les autres enfants se mettraient à imiter le rythme syncopé des pleureuses se lamentant et se frappant la poitrine. Mais les autres enfants n'ont pas non plus envie de jouer à ce jeu-là. Et comme ceux qui ont commencé le jeu ne veulent pas jouer sans les autres, tous se retrouvent lassés et mécontents. Les uns parce que toutes ces propositions les ennuient, les autres parce que personne ne veut entrer dans leur jeu. Jésus s'inspire de cette scène enfantine pour tenter de transmettre une importante leçon spirituelle aux pharisiens et aux docteurs de la loi qui rejetaient la proposition de Dieu pour eux. Prétendant être les religieux les plus engagés et s'arrogeant le droit de faire danser les autres sur la musique de leur choix, ils restent assis sur leur position gênant le jeu de tous. Ils agissent comme des enfants capricieux qui ne jouent pas eux-mêmes et ne laissent pas jouer les autres. Cette génération privilégiée, témoin de l'accomplissement des promesses messianiques, non seulement résiste aux invitations du précurseur, mais encore à celles du Messie lui-même. Ils ne se laissent pas interpeller par les reproches de Jean, ni ne prêtent l'oreille au message porteur de joie de Jésus. Les deux leur paraissent critiquables d'ailleurs. À l'image de ces enfants, ils manient les prétextes les plus futiles comme étant des arguments irréfutables. Voici quelques-uns. Jean était beaucoup trop sévère et Jésus beaucoup trop tolérant. Il ne supporte ni le trop, ni le trop peu. C'est que l'austérité de Jean Baptiste est excessive. Jean est un fanatique sectaire, retiré dans son désert, presque sans manger ni boire, Jean-Baptiste, bien entendu. Trop intransigeant. Il ne sait que lancer des reproches et parler de repentance. Quant à Jésus, par contre, lui, il est trop indulgent. Si bien qu'il devient suspect à être trop l'ami des gens de mauvaise vie. Le maître Jésus n'avait jamais réussi à obtenir l'unanimité de ses auditeurs. Pour ses adversaires intellectuels, il était trop sentimental. Pour les activistes, beaucoup trop rêveur. Pour les révolutionnaires zélotes, prudent à l'excès. Pour les conservateurs sadducéens, trop révolutionnaire. Pour les pharisiens bigots, bien trop libéral. Pour les tièdes de tous bords, bien trop audacieux. Bref, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais cette bande de gamins représentait bien tous ceux qui ne voulaient pas l'écouter. Vous savez, il y a dans l'histoire, dans la parabole, il y a deux groupes, la bande de gamins qui voulaient jouer et celle qui ne voulait pas. Donc cette bande de gamins représentait bien tous ceux qui ne voulaient pas l'écouter, la première, n'acceptant ni critique, ni défi, ni que quelques-uns les tirent de leur confortable immobilisme. Auparavant, les appels à la repentance de Jean vous fatiguaient, Et maintenant, vous êtes agacés par mes promesses de salut, dit Jésus. Vous vous comportez comme des gamins et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de perdre votre dernière chance d'entrer dans le jeu. Vous êtes immature. Dans l'entourage de Jésus, comme dans n'importe quelle communauté religieuse, y compris la nôtre, il existe des mécontents et des sujets de mécontentement. Vous savez, il y a les non-conformistes, inquiets, débordants d'initiatives, mais aussi les victimes du virus que l'Apocalypse nomme le mal de Laodicée, c'est-à-dire les tièdes qui ne s'engagent en rien. Il y a les pharisiens qui disent toujours aux autres ce qu'ils devraient faire, mais ne le font pas eux-mêmes. Et il y a les docteurs de la loi, les juges implacables, qui dénigrent tout ce que l'on propose, mais n'offrent eux-mêmes aucune proposition meilleure. Les perpétuels mécontents admettent difficilement que quelque chose va bien. En présence d'une initiative quelconque, ils se placent toujours en opposition ou trouvent des motifs de critiquer. Le fait est que ces motifs existent et les confortent dans leur position. Ils s'opposent à tout, mais sont incapables de s'affirmer en faveur de quoi que ce soit. Ces repliés sur soi, ces nihilistes de pacotille, se contentent de sourire ironiquement devant toute initiative, suspectant toujours des motivations mesquines de la part d'autrui. Ils discutent sur tout et mettent tout en doute, sans jamais aboutir à aucun projet constructif, gâchant leur propre vie et empoisonnant celle des autres. Il semble d'ailleurs que leur unique satisfaction, c'est de détruire, de débusquer les fautes, de les amplifier, de les divulguer quand ils n'en inventent pas. D'ailleurs, on dirait qu'en regardant le soleil, ils ne voient que ses taches. Chers amis, quand nous perdons de vue notre idéal et relâchons notre engagement, notre regard s'attarde sur notre prochain et nous finissons toujours par trouver quelqu'un de pire que nous. Cette découverte nous soulage pour un moment et arrive presque à nous justifier. Ainsi, notre vie spirituelle ralentit jusqu'à ce que nous rencontrions Dieu nulle part et plus aucun interlocuteur valable dans notre entourage. Mais revenons à Jésus. Cependant, le Maître voyait autour de lui des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants riches de possibilités, dont les vies pourraient être passionnantes s'ils osaient aller jusqu'au bout de leurs rêves. Il savait que tous, ces repliés sur soi, ne sont pas égaux. D'un côté se trouve les je-m'en-foutisme professionnels qui ne s'engagent jamais en rien, partisans de chacun pour soi, pourvu qu'on les laisse tranquilles. De l'autre côté, les êtres profondément déçus qui aimeraient autre chose, mais qui n'espèrent plus rien. Déçus sans doute d'eux-mêmes, ils se méfient de tout. Ils ont perdu leur idéal et leur ferveur, et leurs illusions se sont évanouies. Victimes de leur propre frustration, il ne leur reste plus qu'une insatisfaction amère qu'ils projettent sur les autres pour les rendre supportables. À cela, le Maître peut seulement dire « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Maître répète que Dieu nous invite à entrer dans le jeu de ses plans. Il nous invite à un programme extraordinaire d'initiative, capable de transformer notre existence et même notre monde autour de nous. Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. Mais bien souvent, comme les enfants de la parabole, nous restons insensibles à ces propositions. Nous avons peur des responsabilités. Il est sans doute légitime de se plaindre que le monde, le travail, l'Église, la famille, notre propre vie, tout va mal. Mais nous devrions reconnaître qu'il en est ainsi en grande partie parce que nous aussi, nous contribuons à ce résultat. Il est plus facile de se retirer que de s'engager. Ainsi, nous nous limitons à signaler de la tribune des mécontents les failles d'autrui, oubliant que dans le grand théâtre du monde, les spectateurs sont obligatoirement des acteurs. La tentation de l'inhibition est très sournoise. Il est plus facile de faire une grimace et de refuser d'entrer dans le jeu que de relever le défi du maître. Et la loi de vie ou de non-vie est bien connue. Moins on en fait, moins on a envie d'en faire. L'ennemi le plus redoutable contre le progrès personnel, contre l'enthousiasme, c'est l'apathie. Y succomber, c'est comme renoncer à nettoyer la maison sous prétexte qu'elle ne reste jamais longtemps propre. C'est vrai, combien de fois il faut passer l'aspirateur ou le balai pour que la maison reste propre. Comme ces gamins capricieux de la parabole, nous étalons nos excuses et nos objections et finissons par nous complaire dans l'inertie, plutôt que de tenter de faire mieux. Mais en agissant ainsi, notre conscience s'émousse. La lutte franche et ouverte pour un idéal est passionnante, chers amis, même si parfois elle s'avère douloureuse. À la longue, les blessures résultant de la détermination seront moins graves que celles produites par l'inhibition. Les grands sacrifices sont supportables quand nous savons que nous luttons pour une cause déjà acquise et non pour une cause perdue. Or, Jésus, notre maître, avait annoncé que sa cause triompherait. Il avait aussi l'habitude de dire que seuls les courageux, ceux qui se proposent vraiment d'atteindre leur but, y arrivent. Dans Matthieu 11, verset 12. Les éternels mécontents, ceux qui trouvent toujours des prétextes pour ne pas participer, courent le risque de rester disqualifiés. Et le maître conclut sa leçon par une phrase un peu énigmatique. La sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets. Dernier verset que nous avons lu, que Nathalie nous a lu. Ou, si vous préférez, c'est au résultat que l'on reconnaît la maturité. Les êtres sensés démontrent par leurs actes la cohérence de leurs convictions. La pertinence d'une position se vérifie par des actions tangibles, non par des arguments théoriques, et encore moins par des enfantillages. D'autre part, celui qui ne s'engage à aucune noble tâche ne peut pas être heureux. Il ne se réalise pas pleinement dans sa vie. Sa position de critique permanent ne lui apportera jamais une satisfaction comparable à celle d'un sportif engagé. La joie de contribuer, même modestement, à la victoire de son équipe. Chers amis, le jeu auquel cette parabole nous invite est à la fois fête et enterrement. Il contient des aspects joyeux, comme l'amour, le pardon, l'enthousiasme, et des aspects plus sérieux, réflexion, repentir, discipline. La sagesse est de savoir réagir positivement face aux deux types de sollicitations. Savoir jouir des bénédictions quotidiennes et savoir enterrer chaque jour ce qu'il convient d'abandonner. Les sages de l'Antiquité disaient que la véritable sagesse consiste à faire son devoir de la manière adéquate et au moment opportun. Heureusement, parmi les auditeurs du Maître, certains ne trouvaient pas Jean-Baptiste trop sévère, ni Jésus trop frivole, et reconnaissaient nécessaire la réprimande de Jean et l'accolade de Jésus. Ils étaient disposés à pleurer sur leurs fautes et à enterrer chaque jour le vieil homme pour se réjouir sans fin du privilège de se savoir invité aux noces de l'agneau. Ce sont eux qui acceptent d'entrer dans le jeu du maître, non en tant que spectateurs, mais comme des joueurs disposés à se donner à fond et à coopérer à la mesure de leur capacité au triomphe du royaume de notre Dieu. Grâce à eux, qui, en dépit de leurs limites, ont accompli leur part, nous sommes prêts aujourd'hui à prendre la relève, disposés aussi à entrer dans le jeu et à faire de notre mieux. Que notre Dieu nous y aide tous. Amen.